Radio Okapi.
Okapi.
Le journal présenté par Grace Hamzati.
À la une de l'actualité ce soir, le président Félix Tshisekedi clôture sa visite en Chine ce lundi par Hong Kong. Durant cette visite effectuée sur invitation du président de la République populaire de Chine, les deux chefs d'État ont eu des échanges de vues approfondies sur les relations sino-congolaises et sino-africaines, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Nous en parlons à l'ouverture de ce journal avec Jocelyne Moussa Opondé, notre envoyé spécial en Chine. Célébration ce 29 mai de la Journée internationale des casquets bleus. À cette occasion, le commandant secteur nord des contingents de la MONUSCO réitère la détermination des forces de la mission onusienne à appuyer l'armée congolaise pour la restauration et le maintien de la paix en Ituri. Pas question de demander l'argent aux élèves du primaire qui vont bientôt présenter leurs examens de fin d'année. Interdiction faite par les directeurs de la province éducationnelle Maniema 1 au chef d'établissement de sa juridiction. Mokito Gaounda Séraphin est l'invité de ce radio-journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi clôture sa visite en Chine aujourd'hui par Hong Kong. Il y est arrivé hier après Shenzhen. Ce lundi, Félix Tshisekedi s'est rendu à la place boursière. Rappelons que le président congolais a effectué cette visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont eu des échanges, des vues approfondies sur les relations sino-congolaises et sino-africaines, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun et dégagé un consensus important sur plusieurs sujets. Jocelyne Moussa Opondé est notre envoyée spéciale sur place en Chine.
Félix Tshisekedi et Xi Jinping ont annoncé l'élévation des relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Ils ont entre autres convenu d'étendre la coopération à tous les domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la recherche scientifique, la santé, les infrastructures, les mines, l'agriculture, le numérique, l'environnement, le développement durable, les hydrocarbures, l'énergie, la défense et la sécurité. Selon la déclaration conjointe publiée par les deux États, la commission mixte de coopération économique et commerciale Chine-RDC reste le cadre idoine de définition, de suivi et d'orientation de la coopération bilatérale. La Chine s'engage à continuer à encourager ses entreprises à accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructures convenus et va intensifier sa coopération minière. Les deux pays ont aussi décidé de renforcer les échanges et la coopération dans les domaines de la paix et de la sécurité, notamment intensifier les échanges entre les deux armées. La partie chinoise entend accompagner la partie congolaise dans le renforcement des capacités de ses forces armées. Depuis Beijing, Jocelyne Moussaou, Radio Okapi.
Nous gardons encore Jocelyne Moussaou qui nous parle cette fois-ci de la signature hier dimanche à Shenzhen, ville technologique de la Chine, d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la société Huawei. Le ministre congolais du numérique Eberhard Kolongele et le président du conseil d'administration de Huawei, Liang Hua, ont signé ce mémorandum d'entente. C'était après la visite par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi de la salle d'exposition du quartier général de cette entreprise dédiée aux dernières tendance de la technologie et de l'économie numérique. Suivons son reportage depuis la ville de Shenzhen.
Le protocole d'accord signé entre les deux parties vise à mettre en place un partenariat en faveur de la transformation numérique en RDC. C'est là dans le but de renforcer la coopération numérique dans les domaines des infrastructures, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication TIC, de la digitalisation des services gouvernementaux aux entreprises et de l'énergie verte. Dans son discours de circonstance, le président Félix Tshisekedi a indiqué que grâce à ce partenariat, le pays va développer des domaines qui lui tiennent à cœur, notamment l'énergie, l'éducation, la santé, les finances publiques et la sécurité. Notez que Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de technologies, de l'information et de la communication et d'appareils intelligents. Elle a été créée en 1987 et compte 207 000 employés à travers 170 pays, dont plus de 200 en RDC. Depuis Shenzhen, Jocelyne Moussa Opondé, Radio Okapi.
Avec cette transformation numérique du pays à l'horizon 2025, telle que voulue par les autorités du pays, qu'est-ce qui va changer dans les vécus des Congolais? Écoutez le ministre du numérique Eberhard Kolongele au micro de Jocelyne Moussa Opondé.
nous allons réduire sensiblement l'utilisation des papiers, notamment pour nos administrations. Je prends par exemple sur la question liée aux actes de l'état civil. Aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin d'un acte de naissance, lorsqu'il se trouve par exemple à l'étranger, doit prendre un avion pour venir jusqu'à Kinshasa. Mais lorsque les données vont figurer dans un système numérique, de là où il se trouve, il va juste faire une demande sur une plateforme. La plateforme va les loguer sur la base des données. On va lui donner la possibilité à partir de là d'avoir un acte ou une copie authentique. Et ça sera pareil dans les secteurs judiciaires. Tu as besoin, par exemple, de vérifier tel jugement, tel certificat d'enregistrement, si telle personne est réellement le propriétaire de telle maison qu'on vous propose en vente. Vous allez vous mettre sur une plateforme qui va vous loguer et vous donner toute la situation.
Nous allons renforcer nos contacts avec la communauté locale sur le terrain pour bien coordonner nos opérations militaires avec les FARDC en vue de mieux protéger la population contre les attaques des groupes armés. Ces propos sont du commandant secteur nord des contingents de la MONUSCO en Ituri. Le général de brigade Salahoudine Ahmed s'est exprimé ainsi à l'occasion de la commémoration de la journée internationale des casques bleus ce lundi. Selon lui, les forces de la MONUSCO restent déterminées à apporter l'appui à l'armée congolaise pour la restauration et le maintien de la sécurité en Ituri. Martial Kizabiamungu signe ses reportages.
C'est au rythme de la fanfare des contingents déployés dans les secteurs nord que les casques bleus des Nations Unies ont commémoré au camp de Romo à Bougnad la journée qui leur est dédiée. L'occasion pour les commandants secteurs nord-est des casques bleus de remercier tous les soldats de la paix en mission en Ituri pour leur détermination dans la mission de protection des civils. Le général de brigade Salahoudine Ahmed souligne que la réussite de cette mission dépend du renforcement de la collaboration entre la force et la population civile.
La FARDC est notre partenaire direct parce que nous travaillons ensemble, nous menons des opérations ensemble et pour éradiquer toujours les groupes armés.
On y revient à plus de 20 casques bleus qui ont déjà perdu leur vie en mission en Ituri, souligne le chef de bureau de la MONUSCO à Bougnat. Marc Carnassoro a déclaré que malgré ces sacrifices, plus de 800 000 déplacés sont aujourd'hui sous protection des forces de la MONUSCO dans les territoires de Djougou.
Ici en Ituri, les populations nous respectent. Et on voit clairement que ces populations-là savent l'apport de la MONUSCO aux côtés du gouvernement congolais.
Il appelle cependant tous les jeunes qui sont dans les groupes armés de profiter du programme de D2RCS pour déposer les armes. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et ici à Kinshasa, à l'occasion de la journée des casques bleus, la MONUSCO a organisé une cérémonie d'hommage aux casques bleus civils et militaires tombés sur les champs d'honneur en RDC. Le chef adjoint de la MONUSCO, Kassim Diagne, a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle au quartier général de la mission à Kinshasa. Il a par ailleurs indiqué que cette journée est placée sous le signe de la coopération avec les gouvernements et d'autres partenaires de la RDC pour restaurer la paix. Pendant ce temps, au moins 5 éco-gardes du parc national de Virunga ont été tués en l'espace de 2 semaines au nord Kivu par des présumés Maïmaï. Le cas le plus récent remonte à ce week-end quand une patrouille des éco-gardes a été la cible des Maïmaï Kabido à Nyamusengera, près des Rwindi dans les territoires de Rutshuru. Attaque qui a coûté la vie à 2 éco-gardes. La direction provinciale de l'ICSN dénonce ces attaques récurrentes, criminelles et demande l'implication davantage des autorités militaires et politiques. Denis Lukeso.
L'attaque de ce week-end intervient 10 jours seulement après celle intervenue en territoire de Lubero, ayant coûté la vie à 3 éco-gardes et un personnel civil. Cela porte à 6 le nombre d'éco-gardes tués depuis le début de cette année. 5 autres ont été gravement blessés dans ces différentes attaques au cours desquelles des armes ont été également emportées par les assaillants. L'ICCN condamne ces attaques récurrentes contre son personnel. Il estime que cette recrudescence est liée à la situation sécuritaire actuelle dans la région. Plusieurs groupes armées ont accentué leur activisme dans la partie centre du PNV. L'ICCN rappelle que son personnel commis à la conservation de la nature n'a pas une mission belligérante. Il appelle les autorités politiques et militaires au niveau local et national à s'impliquer davantage sur cette question afin de faire cesser ces actes meurtriers. Dans un communiqué de presse rendu public à cet effet, l'ICCN dit réitérer sa détermination à poursuivre son action en vue de protéger l'intégrité du PNV au profit des communautés locale et y faire régner l'autorité de l'État, c'est là conformément à sa mission. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Dans la province du Sankuru, le président de l'Assemblée provinciale Benoît Olamba et le vice-président Anatole Dilomba ont été déchus samedi dernier par leurs collègues députés provinciaux. Ces deux dirigeants sont taxés d'incompétence notoire et de violation du règlement intérieur qui régit la première institution de cette province. Des explications avec Esther Ndalafina.
Sur les 19 députés provinciaux présents à la séance plénière de samedi dernier, 16 ont voté pour la déchéance du président et du vice-président de l'organe délibérant de la province de Sankuru. Benoît Olamba et Anatole Dilomba sont accusés d'incompétence notoire et de violation à répétition du règlement intérieur qui régit la première institution provinciale. Bien avant leur destitution, 14 députés provinciaux avaient initié depuis la semaine dernière une pétition pour solliciter l'adhésion de leurs collègues. Cette pétition devrait être déposée samedi dernier, mais les deux membres du bureau voulaient l'empêcher en s'absentant de la séance plénière de ce jour. Un bureau d'âge composé de 3 personnes, dont les députés les plus âgés de tous, a du coup été installé pour recevoir la pétition. Ce bureau aura également pour mission d'organiser les élections prochaines de ces deux postes vacants au sein de cet organe délibérant. Toutes nos tentatives pour joindre les deux anciens dirigeants de l'Assemblée provinciale du Sankuru se sont avérés vaines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Kasaï central, les enseignants du secondaire matriculés et non payés réclament leur rémunération. Ils l'ont exprimé ce lundi dans un mémorandum adressé aux autorités. Leur marche initiée à Kananga a été interdite par le maire de la ville. Leur porte-parole rappelle que le ministre de l'EPST avait assuré que ces enseignants devaient être payés dans le budget en cours, mais jusque-là, rien n'est fait. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Le ministre de l'EPST, M. Tony Mwabakazadi, avait signé un communiqué officiel, Mine EPST, CAB Mine, barre 002, barre 2023, reprenant l'ensemble d'actions amenées à la paix du mois d'avril dernier, parmi lesquelles 10 000 enseignants non payés du niveau secondaire devraient être pris en charge dans les premiers trimestres du budget 2023. Il est malheureusement constaté que la réalité sur terrain renseigne autre chose. Quand est-ce que le terme enseignants non payés cessera d'exister dans notre sous-secteur de l'enseignement? Les enseignants du secondaire n'ont-ils pas aussi droit au salaire? Ne rendent-ils pas aussi de loyaux services à la nation congolaise? Nous sollicitons votre implication personnelle en tant que garant de la nation en ce qui suit. Paiement sans condition de tous les enseignants mécanisés non payés du cycle secondaire dans un bref délai. L'amélioration de leurs conditions salariales pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les collectifs des enseignants mécanisés non payés du cycle secondaire espèrent de vous une suite favorable.
Signalons que les manifestants ont été reçus par les autorités de la mairie. Ces dernières ont fait appel au député national Jean-Pierre Kayembe. Cet élu de Kananga a promis de s'impliquer et de voir le ministre de l'EPST sur leur dossier pour que la situation en soit réglée. Plusieurs produits manufacturés sont quasi indisponibles dans les territoires de Kivula au Congo central. La cause, c'est l'état de détérioration de la route nationale numéro 16 sur l'axe Kisantu-Kivula. L'administrateur du territoire qui l'affirme plaide auprès du gouvernement pour la réhabilitation de cette route car selon lui, ce territoire est à vocation agricole, premier en RDC en production du sésame et est tombé dans les oubliettes. On l'écoute au micro des Nana Plurishimambo.
Le boulot d'étranglement de Kivula, c'est principalement la route. Et aujourd'hui, il y avait une voie de secours qu'on appelle Simayandaku, qui va jusque dans la nationale numéro 1, vers le Poma Indome. Mais malheureusement, même cette route-là, il est difficile maintenant de le pratiquer. Les militaires qui sont postés là-bas tracassent tous les véhicules qui passent par là, même celles qui vont dans les Bandundu, et celles qui prennent la tangente de Kivula aussi. C'est vraiment une incidence négative. À l'heure qu'il est, vous ne pouvez pas facilement vous procurer les produits manufacturés comme vous voulez. Ici, il n'y en a pas, parce qu'on ne peut pas les amener de Kinshasa vers Kivula. Même le sucre, le lait, il y a tout un problème pour les avoir. Et aux autorités, nous demandons d'abord qu'on rétape cette route-là. Kivula, c'est le premier grenier au Congo central qui a provisionné en son temps, quand la route était bonne, Kinshasa en produit de culture. Il n'y a nulle part où on trouve le sésame qu'ici. Et on peut en produire en des quantités pouvant même d'ailleurs desservir toute la République.
Actualité internationale.
Les députés ukrainiens ont adopté ce lundi un projet de sanctions à l'encontre de l'Iran accusé de fournir des armes à Moscou pour son invasion, actant la rupture entre Kiev et la République islamique. Cette résolution synchronise les sanctions ukrainiennes avec les actions de l'ensemble du monde civilisé sur la voie de l'isolement complet de l'Iran, a indiqué le Parlement ukrainien sur son site internet.
L'invité.
Il s'agit de Mokito Gaunda Serafin, directeur de la province éducationnelle Maniema 1. Il interdit au chef d'établissement d'exiger l'argent aux élèves du primaire qui vont bientôt présenter leurs examens de fin d'année. Mokito Gaunda Serafin s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur Mokito Gaunda, bonjour.
Bonjour madame.
Lors de ta dernière réunion avec le chef d'établissement, tu les as invités à ne pas chasser les élèves pendant les heures de cours et même pendant la période des examens du second semestre. Quelle est l'importance de ces messages maintenant?
Merci madame. Je voulais seulement te dire que nous sommes gérés par un ministère, le PST, chapeauté par son excellence monsieur le professeur maître Tony Mwaba, qui nous édicte les instructions. Avant que les examens commencent, nous avions quand même notre boussole, notre Bible, notre Coran qui s'appelle les calendriers scolaires. Et maintenant, je ne pouvais pas accepter que le chef d'établissement organise les examens sans se référer notre boussole là. À la période des examens qui commence la semaine prochaine, aucun enfant ne peut être dehors, quel que soit le cas. Mais moi, je leur ai dit, l'enfant qui n'avait pas payé au mois de septembre de l'année passée, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on doit chasser cet enfant pour que cet enfant paye? Non. J'ai dit que tous ces enfants qu'ils ont gardé dans leurs écoles jusqu'aujourd'hui, ils ont droit à leur examen. C'est pour cette raison que j'avais convoqué cette réunion.
Quel danger y a-t-il selon vous quand on chasse un élève de l'école?
Les dangers sont énormes. D'abord, je commence par la sécurité des enfants. Un enfant qui quitte la maison, il vient à l'école, les parents savent que l'enfant est à l'école. Et si l'école retourne les enfants, ce qui peut se passer, les parents ne sont pas au courant. D'abord, c'est un danger. Deuxièmement, dans notre province éducationnelle, il y a les kidnappeurs qui ramassent les enfants chaque fois en cours de route. Les enfants là ne travaillent pas. Les enfants sont victimes du comportement de leurs parents. Ce sont les parents qui prennent l'engagement avec l'école. Donc, s'ils ont à réclamer, ils doivent réclamer auprès des parents au lieu de chasser les enfants. C'est pour cette raison que j'ai dit, à cette période ici, je ne vais pas avoir un enfant dans ma province éducationnelle retourner à la maison.
Monsieur le prophète, votre mesure ne serait-ce pas une occasion pour les parents insolvables de s'acquitter de frais de l'école?
Le mal est que les parents ne viennent même pas au niveau des écoles. Quand on invite les parents, en réalité, les parents doivent se rendre à l'école pour savoir pourquoi ils sont invités. Malheureusement, depuis un certain temps, c'est pratiquement dans toutes les provinces, les parents, une fois qu'ils voient l'invitation, ils font allusion aux frais. Mais ce n'est pas quand même correct. Ils doivent aller négocier avec l'école pour dire que moi, je suis pas prêt aujourd'hui, je serai prêt dans 3 jours. Malheureusement, ici, les parents ne veulent pas faire ça, mais je demande à tous les parents insolvables. Et l'enseignement n'est pas gratuit. Franchement, là où on peut parler de la gratuité, c'est à l'école primaire, mais pas au niveau secondaire. Si l'enfant est au niveau secondaire, je demande à tous les parents de passer à l'école, s'acquitter de leurs devoirs. Ah, j'étais préfet comme eux. Si l'enfant n'a rien payé à l'école, on remettait l'enfant entre les mains des parents. Parce que nous ne voulons pas qu'on chasse l'enfant et demain, on dira que l'enfant n'est pas arrivé à la maison, il est kidnappé. Non. J'ai demandé à tous les chefs d'établissement d'avoir les contacts permanents avec tous les parents et l'invitant de passer à l'école, savoir ce qui se passe au niveau de l'école. Parce que ici, dans la ville de Kindu, il y a 2, 3, 4 jours, un enfant a été kidnappé, un enfant du primaire. Ne peut même pas apprendre et pardonner un chef d'établissement de chasser un enfant au niveau primaire. Mais dans les écoles privées, ils ont un contrat avec les parents. Pour nous, ils doivent respecter les instructions.
Monsieur le prophète, comment allez-vous faire pour contrôler la mise en application de ces instructions que vous donnez aujourd'hui dans les écoles?
Au moment où je vous parle, j'ai signé un ordre de mission où tous les agents de mon bureau sont sur terrain. Parce que c'est une période difficile, une période où certains chefs d'établissement verraient ne respectaient pas les instructions. Je pense qu'à partir du lundi, vous verrez dans toutes les écoles de ma province, les agents, pas pour demander les frais, mais pour mettre en application les instructions édictées par la hiérarchie.
Monsieur Mokito Gaounda Serafin, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Madame Florence.
Notre invité, Mokito Gaounda Serafin, directeur de la province éducationnelle Maniema 1, était interrogé par Florence Kizalunga. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Martin Sebujangwe. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix et bonne suite de l'antenne au Kapi soir avec Baya Tchamala. Au revoir.